associés. Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclet, Madame Marie Calero est excusée de donner pouvoir à Monsieur Claude Raoux, Madame Laure David-Giton, Madame Laurence Desfonds-Fargeon est excusée à donner pouvoir à Monsieur Benoît Sanchez, Monsieur Hervé Flaugère, présent. Monsieur Juan Garcia, présent. Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos est excusé à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flaugère, Madame Myriam Gutiérrez, Madame Florence Jouve-Lavolée est excusée à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, présent. Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux, Madame Cathy Ricard,
présente.
Madame Bruna Romagnini, présente. Monsieur Benoît Sanchez, présente. Madame Anne-Marie Souffeton, Madame Virginie Vicente, présente. Monsieur André Vigli, présente. Et moi-même. Bien, la première question, il s'agit de nommer le secrétariat de séance. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée de désigner son secrétaire de séance. Il est proposé de désigner M. Hervé Flaugère, qui s'abstient. M. Raoux, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 2, vous l'avez tous eu, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 22 février 2022. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, Monsieur le Président.
Je vous en prie, Monsieur Perron.
Donc, Monsieur le Président, donc, je vais approuver le procès-verbal, bien que je constate que les propos diffamatoires et calomnieux de Mme Bompard à mon égard n'y figurent pas. Je vais donc faire une mise au point, et je regrette son absence. En même temps, c'est fidèle au comportement de Mme Bompard, elle préfère balayer devant la porte des autres, car devant la sienne, il y aurait trop à nettoyer. Vous souhaitez parler de la Cour régionale des comptes, allons-y, à Comino d'Orange en 2010. Le rapport fait apparaître à plusieurs reprises le nom de Mme Bompard qui utilisait, à titre irrégulier, les moyens de la commune pour ses besoins personnels alors qu'elle n'y était même pas élue. L'instruction a relevé des factures récurrentes de restaurants, deux ou trois convives le dimanche, des factures d'hôtel au nom de Marie-Claude Bompard, des séjours en Autriche, 5 jours dans un hôtel spa en 2007 pour un coût. Ce dernier séjour de 2000 et quelques euros à l'époque, des soins de vinéothérapie, amam, benthermal, concernant M. et Mme Bompard, des achats de parfums Dior, Chanel, crème bronzante et produits de bain, des achats de cigares, cigarettes à l'étranger, des chèques emploi, services et des factures réglées mensuellement par le Centre communal d'action sociale pour les aides ménagères à 37 euros par semaine. Ces dépenses ne paraissent pas rattachables aux affaires de la commune ni à l'activité de représentation du maire. Vous souhaitez également parler de décision de justice, mais allons-y, donc en janvier 2009, vous avez été mis en garde à vue au commissariat d'Avignon dans le cadre d'une enquête diligentée par le pôle de l'instruction du tribunal d'Avignon et confiée aux spécialistes de la division économique et financière de la CRPJ de Montpellier, perquisition dans la foulée. Pour conclure, Mme Bompard, la société régresse lorsque le bavardage des donneurs de leçons empêche d'entendre le retentissement des actes de ceux qui construisent. Et vous avez raison de ne pas siéger en commission des finances, peut-être parce que j'y suis, mais surtout parce que vous n'y comprenez rien. Et nous avons assez perdu le temps pour le territoire pendant ces deux mandats. Voilà cette mise au point que je comptais faire depuis le temps que je suis agressé par celle-ci. Voilà.
Merci, Monsieur Perron. En plus, j'ai le sentiment que cela vous a fait du bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le procès-verbal? Monsieur Raoux, je vous en prie, bien évidemment.
Oui, face à ce rapport à charge, je me trouvais l'impression de me trouver dans un prétoire. Mais j'aurais trouvé plus correct que Monsieur le maire de Mondragon puisse faire cette démonstration vivante en présence de Madame Bompard.
Mais je le ferai. Le prochain coup, je ne m'en garderai pas.
Très bien.
Je devais répondre au compte rendu. J'ai répondu. Donc, mais le prochain coup, madame Barcelona, je ne manquerai pas à rédiger ma question.
Je souhaiterais que ce soit marqué dans le compte rendu. La présidence, madame Bompard.
Très bien. On marquera fidèlement ce que vous venez de dire, messieurs.
Je n'ai pas peur de tout ça, je le ferai.
Et donc, nous aurons, chers collègues, une deuxième séance. Ce qui est plutôt agréable d'ailleurs, mais nous aurons l'occasion de le faire à la prochaine séance. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions? Qui s'abstient? Monsieur Raoux, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 3, il s'agit des déchets et de la précision sur l'adhésion au syndicat des Ports de Provence. Madame Ricard, vice-présidente aux déchets, vous avez la parole.
Merci Président. Puisqu'on en est sur des considérations un peu plus personnelles, je me permettrai, par ces premiers mots, de vous remercier tous pour vos très gentils messages, que ce soit pour prendre mes nouvelles ou pour m'assurer de votre soutien. Voilà, ça a été une période un peu difficile. Et je dois vous dire que ce soir, quand je vous vois tous, j'ai un immense plaisir à vous retrouver. Bien. Alors, il m'arrive une drôle d'histoire ce soir, puisque je dois vous parler de l'adhésion au CIP pour notre territoire, et que je voudrais le rappeler ici, parce que d'autres pourraient me le rappeler.
C'est vrai.
En 2018, je crois, Anthony. En 2018, donc, nous avions déjà procédé à un vote pour cette adhésion. Et j'avais voté contre l'adhésion de ces CRLP au syndicat, au CIP. Alors, pour ceux qui me connaissent, il n'est pas besoin de dire qu'il ne suffit pas d'être passé de l'autre côté et de me retrouver assise aux côtés d'Anthony Zilio pour changer d'avis aussi facilement, puisque ce soir, je vais donc bien vous proposer d'adhérer au CIP. Mais depuis 2018, eh bien, des choses effectivement se sont passées. Des compétences m'ont été déléguées, confiées. Je travaille donc le plus sérieusement possible avec la commission qui s'occupe de la collecte et du traitement des déchets. Et c'est ce qui m'amène avec la conviction qu'on fera le bon choix ce soir d'adhérer au CIP. Alors, juste pour se rappeler un petit peu l'histoire et puis pour comprendre ce qui se passe, parce que le domaine des déchets est quelque chose de très particulier. C'est d'abord une urgence pour l'humanité que de devoir traiter de mieux en mieux les déchets et surtout d'essayer d'en produire le moins possible. Mais lorsqu'on travaille dans ce domaine, on s'aperçoit aussi qu'il y a des offres très restreintes, que les services sont très cadrés, qu'on a en face de nous des gros groupes qui s'occupent de ces services-là, et que ce n'est pas toujours facile de trouver la voie la plus juste et la plus pertinente pour son territoire. Je fais partie en plus, pour les petites histoires, vous avez sans doute vu dans les journaux, je fais partie de ces maires qui ont eu et qui ont toujours, pour moi c'est encore du présent, pour nous à Morna c'est encore du présent, qui sont confrontés à donc l'indélicatesse d'un réseau parallèle au réseau officiel de traitement des déchets. Et donc nous sommes à Morna impactés par des déchets sauvages à grande quantité dans des hangars, et tout ça à travers un réseau pas facile à aborder, complètement illégal, mais qui endeuille vraiment nos communes et devant un État qui a très peu de moyens à mettre à notre disposition, qui essaie de nous soutenir, mais que je trouve peu efficient dans les moyens donnés aux communes pour se sortir de ce genre de soucis. 15 000 mètres cubes pour Mornas, posés comme ça, de façon sauvage, et dont personne ne veut plus, évidemment, des solutions à trouver, des centaines de millions d'euros à trouver. Voilà. Tout ça, ce sont les déchets. Ça veut dire que nous, élus, quand on est dans nos fonctions, c'est vraiment un sujet qu'il faut travailler avec beaucoup, beaucoup de sérieux et d'intérêt. Depuis 2017, CCRLP est compétente, comme toutes les autres intercommunalités, de la gestion des déchets. Nous le savons, puisque nous suivons tout ce qui se passe depuis, avec beaucoup d'intérêt, le coût des collectes, mais surtout le coût des traitements, a très fortement évolué. On en a vu les dernières mesures très récemment, l'année dernière encore, avec des notifications sur nos contrats qui sont arrivées par centaines de milliers d'euros. Pour mémoire, depuis le transfert de la compétence des communes à la CCRLP, donc depuis le 1er janvier 2017, nous n'avons augmenté ni les taxes et nous n'avons changé ni les services aux administrés. Nous avons essayé de tenir le cap, mais aujourd'hui, la tension est forte. Pour rappel, le coût du service lors du transfert de la compétence n'était pas toujours autofinancé par les taxes et certaines communes tapaient dans le budget général pour pouvoir abonder à la dépense. Nous n'étions pas donc de façon égale devant le problème. Et ça a demeuré. À titre d'exemple, le coût de traitement des ordures ménagères résiduelles était en 2017 de 65 euros la tonne. Aujourd'hui, nous sommes à 143 000 euros la tonne. C'est une augmentation de 120%. C'est énorme. À cela s'est ajouté, vous en avez entendu parler plusieurs fois, l'augmentation de la TGAP, cette taxe que l'État avait passé de 22 euros en 2017, toujours, qui aujourd'hui est à 45 euros, et des annonces d'augmentation
à 65 dans les deux prochaines années.
À prévoir. Face à cette envolée des coûts de traitement, mais également des coûts induits et notamment les coûts de transport, vous, ça, c'est pas la peine que je vous fasse un récapitulatif comme ça, vous suivez les événements directs. Notre collectivité doit, comme l'ensemble des collectivités de notre pays, s'organiser. S'organiser, ça veut dire se regrouper en vue de pouvoir peser sur ce marché, ficelé par quelques grands groupes dont je faisais état tout à l'heure. Ces groupes nous imposent une forme de diktat des prix et c'est difficile d'œuvrer pour l'intérêt financier à la baisse pour notre territoire. Au-delà de la question primordiale du coût de la gestion des déchets dont la production dans nos territoires ne cesse d'augmenter aussi, se pose également la question sur notre département des exutoires de ces déchets. On vous en a déjà parlé. Deux solutions pour nous s'offrent de façon assez inégale dans l'avancée des structures. Donc on a été très attentifs et on l'est toujours à ce qui se passe sur le sud au niveau de Veden, où une étude est en cours pour essayer de créer donc un syndicat qui s'occupera de traiter les ordures ménagères. Une autre solution s'offre à nous, c'est celle qui se situe sur le nord, que vous connaissez peut-être un peu plus, qui reçoit aujourd'hui nos collectes. C'est à Roussas. C'est la COVED donc, qui s'occupe de ce centre de tri. C'est aussi un centre qui arrive à terme d'ici 2026 de mémoire. Il faut donc que ce syndicat commence à travailler sur un projet et c'est en cours. Et les choses sont déjà structurées, très avancées et nous pourrions nous rattacher donc à ce projet de façon efficiente. C'est, nous semble-t-il, la meilleure des solutions, même si on est attentif. Et le préfet nous le rappelle de cesse de devoir régler les choses le plus localement possible. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est l'adhésion du CIP qui va répondre au mieux, y compris d'ailleurs dans les tarifs que l'on, que l'on prévoit à cet effet, le CIP est largement prêt à nous accueillir au meilleur prix de ce que nous pouvons trouver sur le marché. Donc c'est pour ça que je vous propose, pour vous donner une idée de la différence de prix qu'il pourrait y avoir sur les deux structures possibles, donc celle de Veden, dans les premiers prix qui sont annoncés, est annoncée la somme de 241 € hors taxe la tonne. Et sur le CIP, donc, nous sommes nettement moins chers, puisque le prix qui nous est annoncé aujourd'hui pour les traitements des ordures ménagères résiduelles est de 160 € hors taxe la tonne, et le traitement du tri 190 €. Donc c'est nettement plus intéressant à ce jour, et il n'y a aucune raison, vraiment aucune raison, après avoir ouvert tous les dossiers et étudié toutes les solutions, de se passer de cette solution adaptée à nos besoins et nous offrant en plus des tas de services qui pourront nous être très précieux, que nous n'avons pas aujourd'hui et qui pourront, pour les administrés, rajouter un plus. Voilà, j'essaie de vous faire passer ce message parce que c'est très important. Compte tenu en plus de ma position en 2018, je voudrais que ça puisse vous rassurer, c'est-à-dire que je partais avec un regard très négatif sur la question. Et après étude, et après avoir pesé les choses et ouvert les yeux, je peux vous assurer qu'à ce jour, et à la connaissance des éléments que j'ai, je vous propose la meilleure solution, et je vous propose donc de voter favorablement. Ben ça, c'est peut-être toi qui vas faire le vote, mais je ne vais pas aller au bout de la démarche, et puis peut-être qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre, bien sûr. J'étais un peu longue, mais c'était très important d'abord de faire un petit récap sur l'aspect financier des choses, et puis aussi de donner un sens aux choses. Merci pour votre écoute.
Merci Cathy. En plus, s'ajoute à cela, bien souvent on ne le prend pas en compte, mais qu'il est extrêmement important, au-delà du coût de traitement, que ce soit sur le tri ou sur les ordures ménagères, c'est la question du transport que l'on ne prend pas en compte. Et quand on va à Roussas ou qu'on va à Veden, ce n'est pas la même direction et ce n'est pas le même kilomètre. Donc c'est important. Alors c'est vrai que ce débat, on l'a eu, on l'a porté en son temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur la question de l'adhésion. On a eu la ville-centre qui s'était opposée et qui a fait donc... n'a pas permis l'adhésion au syndicat des ports de Provence. Moi, je veux juste rappeler que l'heure n'est plus à la tergiversation pour nos collectivités et qu'il y a urgence à agir et à prendre en main la question des déchets et des exutoires, parce que demain, tu l'as dit, nous serons dans le giron de ces grands groupes qui décideront, puisqu'ils décident de l'exutoire, ils décideront pour nous du prix, etc. On voit déjà deux prix apparaître, et tu l'as précisé, près de 250 € pour l'un et 190 € pour l'autre, hors taxe, pour le traitement du tri, simplement. Et donc, il y a urgence à ce que nous puissions le faire. Simplement préciser que la communauté de communes est aujourd'hui en renouvellement du marché de collecte et de traitement, et nous le verrons au prochain conseil communautaire. Il y a d'ailleurs eu une commission d'appel d'offres hier qui s'est réunie, qui était présidée par notre collègue Françoise Bouclé, sur ce sujet. La question du traitement est prégnante, notamment de l'envolée des coûts, mais aussi de l'absence de candidats. Et c'est une première pour répondre à notre consultation, ce qui aussi, lorsqu'il n'y a plus de candidats, laisse le libre arbitre du prix sans consultation et du prix d'un potentiel candidat ou d'une potentielle société. Alors nous le ferons le temps de l'adhésion au CIP, vous l'aurez compris, sur les 3-4 prochains mois, et ensuite on se rattrapera à ce qu'il en est par rapport à d'autres sociétés qui seront retenues. Voilà pour cette question-là, on vient préciser. Nous avions adhéré le 25 janvier en précisant les délégués au sein du CIP, et désormais il faut se prononcer pour l'adhésion à compter du 1er mai. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Raoult.
Si je puis me permettre de faire une remarque qui est quelque part une certaine inquiétude. Pourquoi ? Parce qu'il est prévu une unité de traitement dont nous ne connaissons ni le mode de traitement, ni le volume de déchets prévu, ni les coûts provisionnels de fonctionnement, ni surtout le coût attendu à la tonne. Il est dit qu'une étude d'impact financier doit être faite. Puisque ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous décider de l'adhésion ce soir ? Cette étude va nous présenter un bilan global de tous les coûts et financements comparatifs de notre rapport annuel, entre autres. traitement, transport, gestion de déchetterie et ressourcerie. Sur le dernier rapport annuel du CIP, celui 2020, il est dit que le coût de l'habitant ainsi que le coût à la tonne traitée augmente en cette année 2020 pour les raisons suivantes. Intégration de deux nouveaux EPCI, présentant des coûts plus importants, transport et reprise de contrat. Augmentation du nombre de sites en gestion, 4 déchetteries, 2 quais de transfert, dont les coûts peuvent dériver à tout moment. D'autre part, cette fameuse future unité de traitement pour les dépenses pharaoniques de 50 millions d'euros nous engage solidairement sur un projet auquel nous n'avons pas participé. Le risque est énorme. Le CITRAP, syndicat Nord-Drôme, se trouve piégé par un investissement de même hauteur. Résultat, rien ne fonctionne et le prix du traitement a explosé. La participation à l'habitant aussi. De plus, une taxe supplémentaire destinée au remboursement d'une structure inutile a été instaurée. Il serait judicieux d'attendre au moins la mise en fonctionnement de cette unité. Et pour mémoire, en rappelant que le CIRAP fait pression sur la préfecture de la Drôme pour absorber le CIP et ainsi mutualiser ses dettes monstrueuses. Donc je pense qu'il serait très prudent et éviter de partir à l'aventure trop tôt.
Oui, monsieur Raoult, on les met où en attendant nos poubelles? On les met où en attendant nos poubelles?
Ça fonctionne,
ça. Ah oui, non, mais c'est fini, là.
Vous engagez la collectivité pour 50 millions d'euros, il me semble, quelque part.
Non.
Mais ce n'est pas nous qui allons porter ça, monsieur. Non. Vous faites...
Une expérience au nord d'ici très malheureuse, vous savez comment ça fonctionne actuellement. Tous les déchets qui sont extraits là sont enfouis. Tous les déchets qui sortent des structures en dessous Valence sont enfouis. Quel est l'intérêt? C'est pour ça que nous sommes très prudents là-dessus. On n'est pas contre ce principe-là.
Donc, votre proposition, c'est quoi, monsieur? D'attendre? Attendre quoi?
Et aujourd'hui, monsieur Raoult, nos déchets sont pas enfouis. Et aujourd'hui, nos déchets ne sont pas enfouis. Aujourd'hui, ils sont enfouis. Ils sont enfouis à Roussas, comme aujourd'hui le Citrate les enfouit à Valence. Et donc, je sais que c'est l'obsession de votre groupe. Que de vouloir le CITRAD. À la séance précédente, Madame Bompard nous faisait écho de cette illustration. Moi, je veux juste préciser deux choses. La première, c'est que sur la transparence du rapport, nous avons passé une première délibération de principe dans lequel, en effet, il a été évoqué d'ailleurs par Madame Ricard et à l'ensemble des élus que nous n'avions pas la totalité des éléments et il nous fallait redélibérer. Aujourd'hui, vous avez une étude qui avait été demandé dans la première délibération, qui vient d'arriver, et vous avez le coût, le tonnage, la péréquation des coûts en page 17 du rapport d'étude, qui précise à la tonne le coût de traitement. Donc, je sais que la question du CIP, vous ne pouvez pas dire autre chose que ce que vous disiez à l'époque où vous refusiez l'adhésion au CIP, même si je vous ferai remarquer que quand Mme Ricard évoque les 63 euros hors taxes, en 2014 de traitement, bien que nous n'étions plus au syndicat des ports de Provence, nous bénéficions des coûts du syndicat des ports de Provence. C'est-à-dire 98 euros, TGAP comprise, puisqu'à l'époque on était à peu près à ça, sur la tonne. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs schémas qui peuvent se faire. Aujourd'hui, on le voit que sur la question du Sieux-Sotomme, du Sidomra et de ce syndicat départemental vaucusien qui est en train de se structurer. Il me semble, pour avoir écouté la séance du conseil communautaire de la CC Pro sur Orange du mois de février dernier, la volonté du maire d'Orange de vouloir adhérer à ce syndicat ne lui apporte pas aucune visibilité quant au prix de traitement à la tonne, il le dit d'ailleurs. Et c'est ce qui est d'ailleurs évoqué lorsque nous le faisons. Aujourd'hui, nous disons que nous voulons une stabilité sur les prix. C'est ce que nous engage l'adhésion au syndicat des ports de Provence. Nous avons une contrainte que toutes les collectivités de France ont, c'est la question de la taxe générale sur les activités polluantes pilotée par le gouvernement et qui était de 22 euros et qui va passer à 65 euros la tonne. C'est-à-dire que pour le territoire, nous allons prendre, pour les Bolénois par exemple, 200 000 euros de taxes par mois supplémentaires sans traiter plus de tonnes. Et en même temps, nous avons eu des effets ciseaux avec une augmentation du tonnage qui s'explique tout simplement parce que nous avons eu les rapports de 2020. Je vous rappelle que le 17 mars 2020, nous avons été contraints de rester à la maison et que par conséquent, il y a eu plus de tonnes de déchets générés et que pour le fonctionnement du service, il y a à un moment donné la question de la rentabilité. On le verra tout à l'heure sur la question de la fiscalité où j'imagine que nous aurons un débat sur ces questions-là pour le financement du coût. Toutes les collectivités de France, toutes les communautés de communes qui gèrent les déchets depuis le 1er janvier 2017 sont toutes soumises à la même difficulté, c'est de ne pas posséder un exutoire. Et donc, quand vous déposez, vous n'avez pas d'exutoire et que c'est des grands groupes qui les ont, eh bien, vous vous retrouvez contraint d'aller avec eux ou d'aller avec eux. Et si vous avez un exutoire, eh bien, vous le décidez vous-même. Et c'est un peu ce que nous venons de faire. Alors, vous forcez le trait, comme à chaque fois, non, nous ne porterons pas 50 millions de financement parce que c'est pas notre volonté. Vous l'avez vu, c'est 200 et quelques mille euros.
243 000 euros
par an pendant 17 ans. Et d'ailleurs, je serais curieux, mais c'est toujours facile quand on n'a pas la contrepartie de savoir combien on coûterait ailleurs si on devait se financer notre propre exutoire et si on devait trouver d'autres moyens. Voilà. Et après, il y a la question du service à l'usager. Ça, c'est le troisième point. C'est quand on ne change pas le service à l'usager, mais qu'on prend, vous l'avez vu, on est passé de 63 à 140, on a pris plus de la moitié, plus d'augmentation, sans changer le service, il faut à un moment donné pouvoir le justifier à la population. Donc c'est pourquoi, contrairement à ce que vous dites, en page 17, vous avez le coût à la tonne sur l'adhésion et sur le traitement, vous avez même le prix de reprise par la CCRLP à la tonne des matières, papier, acier, aluminium, etc., et le prix de reprise du syndicat des ports de Provence. Vous avez en page 18 le coût porté par nos collectivités par rapport à la population. Et ça fait 10 euros par habitant, me dit le premier vice-président, à juste titre. Et donc, voilà, bon, écoutez, j'entends ce que vous dites. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait dû adhérer bien, bien, bien plus avant à la question du CIP. On aurait dégagé, je pense vraiment, à l'époque du CIERG qui adhérait au CIP, des marges d'économie, parce qu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait et nous avons pris du retard. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur Mossi?
Brièvement, sur un point qu'a relevé Madame la vice-présidente, c'est les ambassadeurs du tri et si possible, mettre en place une diminution des déchets qui passerait notamment par des composteurs individuels sur notre communauté, ça va être possible. J'avais relevé, comme M. Raoult, alors d'un côté, on a des économies, on a 285 000 euros d'économies, parce que quand on négocie des gros volumes, on a de meilleurs prix que quand on négocie des petits volumes. De notre côté, on a 240 000 euros d'investissement sur 17 à 30 ans à assumer, donc c'est juste ce que vous dites, et on aura 3,50 euros par habitant aussi à débourser. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir un tableau de synthèse. Alors, vous nous avez donné une synthèse d'EDEN, ce syndicat, mais une synthèse générale pour savoir à peu près où en aller. Mais c'est vrai que tout ça a un coût. Et ce qui me dérange, moi, derrière, c'est qu'on sait que c'est la COVID, que derrière la COVID, c'est pas PREC. C'est toujours les mêmes. Et que quand on éloigne des habitants... et qu'on fait confiance uniquement aux grands groupes, je suis persuadé que moi, on perd de l'efficience et de l'efficacité. Alors, on n'a pas beaucoup de choix, mais d'autre côté, les grands groupes sont là pour qu'on ait le plus de déchets possible, puisque comme ça, financièrement, ils gagneront encore plus d'argent. Récemment, il y a une émission à la télé, je suppose que vous l'avez regardée, de Louise Lucet sur les déchets, et le PDG de Paprec m'a pas du tout convaincu sur son honnêteté, puisque en début de séance, on parlait d'honnêteté.
Merci. J'entends, je partage beaucoup votre sentiment. Hein. Je l'ai dit en début d'intervention. En même temps, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de choix? Enfin, vous verrez mardi prochain, on essaie de faire des choix les plus propres possibles. Voilà, sans jeu de mots. Mais c'est vraiment un milieu très compliqué. On essaie d'avancer avec beaucoup de prudence, en tout cas beaucoup de lucidité. Et puis en essayant d'être le plus adapté aux besoins des administrés. Et vous avez relevé aussi qu'il y avait des propositions fort intéressantes, et je sais que ça va vous intéresser, monsieur Mossi, pour optimiser effectivement tout ce qui est gestes nouveaux à adopter pour tous, en vue de produire beaucoup moins de déchets, parce que ça sera la seule solution de dépenser moins.
Merci. Je soumets donc cette délibération au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Monsieur Raoux. Dossier adopté à la majorité. La question numéro 4, et j'excuse donc notre collègue Madame Laurence Desfonds-Fargeon, il s'agit d'un contrat de partenariat pour l'achat de titres de transport entre la SNCF Voyageurs et la communauté de communes Rhône-Lest-Provence. Nous l'avons évoqué plusieurs fois, il s'agit de pouvoir justement contractualiser avec SNCF Voyageurs pour permettre justement la distribution de tickets dans l'office de tourisme. Il y a aujourd'hui plusieurs axes dans le document contractuel que vous avez, la localisation du point de vente, etc., etc. L'idée étant de pouvoir justement amener le ticket de train à l'office de tourisme et de permettre justement à la communauté de communes de conventionner avec la SNCF Voyageurs pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature, d'approuver les termes du contrat et de m'autoriser à signer le partenariat avec la SNCF Voyageurs. Quelques mots sur la gare. Puisque c'est un sujet qui nous préoccupe. Nous avons bien évidemment des inquiétudes dont nous avons fait part au président de région sur la question de la fermeture du guichet de la gare de Bollène-la-Croisière. Absolument rien à voir avec cette délibération, puisque cette délibération sur la question de la vente des tickets, nous l'avions évoquée bien avant cette décision. C'était celle de pouvoir justement éviter d'aller jusqu'à la gare pour récupérer un billet quand on n'a pas Internet ou quand on ne peut pas acheter un billet, mais de pouvoir le faire dans un pôle de centralité, que ce soit dans le hall d'un hôtel de ville ou dans un office de tourisme, parce que c'est plus pratique. En ce qui concerne la gare de la Croisière et des derniers échanges que j'ai pu avoir avec le président de région, Muselier, sur la question du guichet, c'est une volonté régionale que de vouloir, comme il a été fait d'ailleurs à la gare de Carpentras et à la gare de Sorgues, Châteauneuf-du-Pape, de supprimer ces guichets-là au regard d'un certain seuil de rentabilité que certains définissent et dont je ne sais pas comment d'ailleurs ils le calculent. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est de préciser que notre territoire doit être attentif à ce qui se passe sur la question des transports ferrés, parce que d'autres régions ont fait d'autres choix. Je pense notamment à la région Occitanie, qui rouvre les gares de Bagnols-Pont-Saint-Esprit et qui, de fait, vont enlever des voyageurs sur la gare de Bollène. Et rappeler que la gare de Bollène, sur les chiffres 2021, est, en termes de développement, la première gare de Vaucluse, puisque nous sommes à plus de 16% d'augmentation du flux de voyageurs. Nous sommes à plus de 110 000 voyageurs par an sur l'année 2021 en gare de Bollène. Donc tous ces chiffres que j'ai pu rappeler et à la directrice de la SNCF qui est venue me voir et au président de région pour dire qu'aujourd'hui nous avons la volonté à Bollène de réhabiliter cette gare, le parvis sécurisé, etc. pour faire en sorte que cette gare puisse être un peu plus attractive. Ça doit être mené de concert avec ceux qui portent la politique régionale pour le coup de transport des trains express régionaux qui est la région Provençale-Côte d'Azur. Donc voilà ce que je voulais dire, parce que je ne pouvais pas parler de cette délibération sans parler des mesures qui sont arrivées mois de février, je crois. Et donc nous y sommes attentifs. Des discussions ont été portées. Le conseiller municipal du quartier de la Croisière, Aimé Verbiguier, a pu travailler sur ce sujet avec la direction de la SNCF, et nous sommes en discussion. Une réunion a eu lieu il y a 10 jours avec la région sur comment aménager justement cette gare qui mérite qu'on y accorde un peu d'attention. Voilà ce que je voulais dire. Ça n'a absolument pas de lien, mais là c'est sur un contrat de partenariat locaux pour l'achat de titres de transport. Mais je souhaitais le dire parce que le fait que le guichet ferme, c'est une situation fâcheuse pour notre territoire. Et donc je tenais à le dire publiquement à tous ceux qui nous entendront. Est-ce qu'il y a des interventions sur la question du guichet, monsieur Raoux ?
On ne peut que constater et regretter une fois de plus des désengagements de l'État, je dirais, sur des symboles, des pôles forts. Il y a celui de l'énergie, on a commencé déjà à démanteler l'énergie, Là, on s'attaque au transport, alors que tout le monde sait que le transport, surtout ferroviaire et autres, c'est le tissu social d'un pays, c'est le tissu social de la population. Et on continue de nouveau à fermer de manière rentabilisée. Comment peut-on rentabiliser un service public? Ce n'est pas possible. On peut essayer qu'il soit le plus rentable possible, mais le service public est au service de la population, au service des gens, et on continue encore dans ce schéma-là. Alors moi, bien sûr, je voterai pour, mais je veux dire, c'est très regrettable.
D'autant plus regrettable que nous avons maintenu la compétence transport par la loi LOM au 1er juillet 2021 à la communauté de communes, parce qu'on aurait pu la transférer à la région. Quand on voit les premières décisions, on se rend compte à quel point certains services auraient pu être coupés de Marseille. Alors je préfère porter à Bolène la politique pour les transports sur le pays bolénois. Et c'est en ce sens que nous avions pris cette décision-là. On pourrait parler des services de sécurité, on pourrait parler des maternités, on pourrait parler des hôpitaux dont on a révélé l'importance dans la période Covid. Pas là pour faire le procès de l'État, mais force est de constater que, en effet, nous sommes en train de détricoter tout ce qui fut la force du service public par le passé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La question numéro 5, il s'agit d'une convention de service commun technique. Monsieur Perron.
Alors, la CCNLP est propriétaire d'une balayeuse permettant le balayage mécanisé des voiries espaces publics, d'une faucardeuse permettant le fauchage de végétaux, notamment aux abords des voiries, et d'un maxity ampli roll aspifeur. Il est proposé donc de permettre aux communes membres d'utiliser ces matériels avec les chauffeurs pour la balayeuse et la faucardeuse, et sans chauffeur pour le maxity ampli roll. Afin de réaliser les prestations décrites précédemment aux tarifs mentionnés dans la convention jointe, le conseil communautaire est appelé à approuver la convention relative au service commun balayage mécanique faucardage aspifeuille pour de période de 2022 à 2024, telle qu'annexée à la présente délibération. Et bien entendu d'autoriser M. le Président à la signer ainsi que tout acte nécessaire à son application.
Merci M. Perron, merci. Nous continuons donc cette volonté de mutualisation. Est-ce qu'il y a des interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 6, il s'agit d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de la CCRLP à Bolène pour le point d'apport volontaire d'Odé. Monsieur Perron.
Alors, considérant l'opportunité technique de faire réaliser en concomitant le parking rue Alphonse Daudet porté par la ville de Bolène et les points d'apport volontaires situés sur celui-ci. La compétence relative à la gestion des déchets relevant de la compétence de la communauté de communes, il est proposé de déléguer la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des aménagements du PAV à la ville qui intégrera ses travaux dans son programme de voirie et refacturera à la communauté de communes. Considérant que le budget prévisionnel de l'opération est estimé à 40 000 euros, le conseil communautaire est appelé donc à valider la convention de maîtrise d'ouvrage telle que jointe à la note de synthèse et d'autoriser, bien entendu, Monsieur le Président, à la signer ainsi que tout acte nécessaire à son application.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 7. Il s'agit d'un marché de fourniture et livraison d'arrêt alimentaire. Monsieur Perron.
Alors, vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres réunie le 26 octobre 2021, qui a déclaré sans suite les lots 1 et 4, considérant qu'une procédure a dû être relancée pour ces deux lots le 18 novembre 2021 jusqu'au 20 décembre 2021, la commission d'appel d'offres réunie le 10 février 2022 à 14h30 a désigné les offres suivantes comme économiquement les plus avantageuses. Alors la charcuterie, donc le montant minimum donc, pour un montant de 15 000 euros, maximum 50 000 euros, et donc c'est l'entreprise attributaire numéro 1 Pomona, Passion Froid, qui a été retenue, et l'entreprise attributaire numéro 2 Cisco France. Pour les volailles et lapins frais, donc pour un montant minimum de 20 000 euros et un montant maximum de 60 000 euros, c'est la société de distribution agricole SDA qui a été retenue, l'état d'établissement Ribot de la Palue. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver la procédure d'appel d'offres relative à la fourniture et livraison des denrées alimentaires pour les lots numéro 1 charcuterie et la loi numéro 4, volaille et lapin frais. Et d'autoriser, bien sûr, Monsieur le Président, à signer le marché public ainsi attribué par la commission d'appel d'offres. Autoriser, Monsieur le Président,
à signer le marché public nécessaire
à l'exécution de la présente délibération.
Merci, Monsieur Perron. Excusez-moi, juste. Parce que tout à l'heure, j'avais un doute, mais je veux juste rappeler à M. Raoux, parce que j'ai eu le temps de chercher pendant les propos de. Lorsque nous avons voté le maintien de la compétence transport sur le territoire, vous faisiez partie de ceux qui n'ont pas voté pour le fait que nous gardions la compétence transport sur le territoire, mais plutôt que nous la donnions à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous regarderez dans le compte rendu. Donc j'entends les beaux discours en séance, mais dans les faits, vous avez fait le contraire de ce que vous venez de nous dire. Sur la question des transports, je voulais vous le préciser, je voulais juste m'assurer, je ne voulais pas dire de mensonge, et j'ai pu le temps de lire pendant que M. Perron nous parlait de volaille, de lapin frais, de charcuterie, de m'assurer que je ne disais pas de bêtises. Donc vous voyez qu'entre les propos et les actions, il y a quand même un gap. Sur cette question d'attribution de fourniture, bien évidemment, est-ce qu'il y a des interventions ? M. Raoux, je vous en prie.
Oui, c'est pour répondre aimablement à votre remarque. Votre vice-présidente à votre droite a fait la même réflexion tout à l'heure. En disant j'étais contre, puis maintenant je suis pour. Oui, donc,
d'accord.
Permettez que moi aussi je puisse sourire.
Vous vous en sortez avec un grand tour de pirouette et c'est élégant. Qui s'abstient donc sur ce marché ? Qui est contre ? Dossier adopté. À l'unanimité, je vous en remercie. Sur la question numéro 8, il s'agit d'une fin de mise à disposition de biens à la CCRLP par la commune de Morlas, Monsieur Perron.
Alors, pour faire suite aux délibérations du Conseil communautaire du 9 mars et 13 juillet 2021, portant retrait de l'intérêt communautaire de certains équipements sportifs et culturels de la commune de Morlas, il est nécessaire de venir acter par un PV de fin de mise à disposition jouer en annexe à la reprise en gestion communale des biens suivants. Alors, le stade de foot et vestiaire situé chemin des pièces, tennis et vestiaire, le City Stade, aire de jeu Saint-Pierre, les Pins, les Islons et les Issards, l'espace Saint-Pierre rez-de-chaussée uniquement. Il est précisé que la reprise en gestion communale a fait l'objet d'une révision de l'attribution de compensation de la commune de Morlas par la CLET, et qui s'est réuni le 20 janvier dernier et a établi un rapport définitif en cours d'approbation par les communes membres. Le coût de fonctionnement retenu pour les équipements de Morlas s'élève donc à 19 966,63 €. Le Conseil communautaire est appelé donc à approuver le procès-verbal relatif à la cession de mise à disposition des biens à la CCRLP par la commune de Morlas et d'autoriser M. le Président à signer ce procès-verbal et tout document se rapportant dans ce dossier.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Abstention de monsieur Avon, pardon. Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question suivante, il s'agit de du bureau d'information touristique de Morlas sur la désaffectation. Monsieur Perron.
Par délibération en date du 13 février 2018, la CCRLP avait conclu une convention de mise à disposition avec la ville de Morlas qui précisait que la parcelle H280 était mise à disposition gratuitement de la CCRLP tant que le bâtiment s'y trouvant reste affecté à l'exercice d'une compétence communautaire. Considérant la volonté de la commune de Morlas et de la communauté de communes d'optimiser et mutualiser les moyens mis en œuvre pour développer l'attractivité du territoire dans une optique de réduction des coûts. Considérant la volonté de la commune de réorganiser les équipements publics sur sa commune, il a été décidé conjointement que le bureau d'information tourisme situé à Morlas cesserait d'être affecté à la compétence tourisme le 1er avril 2022, en conséquence et en application de plein droit de la convention de mise à disposition mentionnée ci-avant, le bâtiment 6 sur la parcelle H280 est rétrocédé donc à la ville de Morlas. La commission est appelée donc à entériner ses dispositions et d'autoriser le président à signer toutes les pièces nécessaires au dossier.
Merci, Monsieur Perron. Y a-t-il des questions ? Monsieur Raoux.
Oui, je trouve curieux en fait qu'on arrête cette bureau d'information touristique à Morlas. C'est un village avec un patrimoine très riche, avec une population agréable. Il y a de la nature qui n'est pas très loin, il y a des collines et tout. Et je trouve bizarre que incompréhensible pour qu'on arrête ça. D'autant plus que, vu que les gens ne vont plus à l'étranger, tous les voyageurs et tout, maintenant, restent dans le pays. Et ils vont de plus en plus dans les villages, où il y a un attrait social très important.
Mais nous sommes bien d'accord, Monsieur Ravoux, et je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous avez lu la presse, certainement. Je suppose que vous êtes très attentif à ce qui se passe à Bolène, mais aussi autour de Bolène. Mornas, donc la commune de Mornas, a repris en régie directe la forteresse, ainsi que toute forme de patrimoine, parce que c'est dans notre plan d'action pour le mandat de vouloir développer une action touristique forte. Et nous avons, par souci de convenance humaine, nous avons repris donc les employés qui travaillaient dans l'association qui s'occupait jusque-là de l'animation de la forteresse. Ces employés sont donc chargés de l'accueil du tourisme pour la commune. Au-delà de cela, de faire découvrir le patrimoine et d'administrer tout ce qui est restauration du patrimoine. Et il nous semblait que c'était une façon de pouvoir faire de l'économie à la communauté de communes, que de dire Mornas a les moyens aujourd'hui de pouvoir donner des renseignements, évidemment sur l'ensemble des communes de l'intercommunalité, de façon tout à fait solidaire et naturelle. Et lorsque j'en ai parlé avec le président et les maires, ça a été accueilli dans un souci d'esprit d'économie, d'efficience, de solidarité qui peut se jouer dans les deux sens. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'insultant derrière tout ça, rien de décalé. On essaie de travailler avec cet esprit-là. Et puis, c'était aussi rendre toute la dimension à la ville-centre que de porter l'office de tourisme de façon centralisée, ce qui était un peu compliqué jusque-là pour des blocages politiques où l'office de tourisme a fait quand même beaucoup parler entre CCRLP et la ville de Bolène. Beaucoup de gymnastique et de pièces de théâtre autour de tout ça. Bon, on est sorti de tout ça, mais on essaie de travailler avec de la logique, de la coopération et surtout un souci toujours d'économie. Voilà. Il n'y a rien de magique ni de. Il y a de l'esprit solidaire, c'est tout.
Merci. Y a-t-il d'autres interventions, Monsieur Abon?
Simplement pour dire que je vais m'abstenir aussi comme pour la délibération précédente, parce que ces deux sujets n'ont pas été débattus au conseil municipal de Mornas.
Très bien. Nous notons votre attention. Je vais juste répondre à M. Raoux, avec qui j'ai visiblement depuis deux jours beaucoup de connexions avec lui, sur la question du local. Ça n'enlève pas la compétence et l'exercice de la compétence tourisme, mais... Et d'ailleurs, quand vous faisiez partie d'une équipe qui, par deux fois, a dû aller au tribunal administratif pour récupérer le point info tourisme à la sortie de l'autoroute au rond-point des Ports de Provence, vous étiez un peu moins enclin à poser des questions sur pourquoi l'Interco ne récupérait pas ce local. Je vois que les préceptes que vous appliquez avant ne tiennent plus alors que vous êtes dans l'opposition, et je le regrette, comme je le dis à chaque fois que vous prenez la parole. Il y a les discours de façade et puis il y a la réalité qui est quand même tout autre, puisque nous avons dû par deux fois avec l'argent du contribuable, et puis le Bolénois a dû payer deux fois, à la fois contribuable de l'Interco et contribuable de la ville, pour des contentieux, pour récupérer des clés dont vous aviez été sommé par des jours d'astreinte et des astreintes de retard sur la livraison des clés pour l'exercice de la compétence touristique. Là encore une fois, les mémoires sont courtes et sélectives selon là où elles se trouvent. Sur cette question-là, c'est une décision conjointe de l'intercommunalité et de la ville de Mornas. Et donc, je vous propose d'entériner ces dispositions et de m'autoriser à signer ces pièces nécessaires. Abstention de M. Avon, qui s'abstient, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité, puisque M. Raoux vote la délibération, tout ça pour ça.
Merci beaucoup.
Question numéro 10, il s'agit de la convention de mise à disposition de locaux entre la ville de Bolène et la communauté de communes Ronlès-Provence. Monsieur Perron.
Alors, considérant la volonté de la commune de Bolène de participer au service commun Action Jeunesse depuis le 1er janvier 2022, afin de recréer des structures d'accueil pour les jeunes disparus depuis de trop nombreuses années, la commune de Bolène met à disposition de la communauté de communes les locaux permettant de créer deux accueils jeunes et un point d'information jeunesse et permettre la création d'une véritable structure multisite sur l'ensemble du territoire qui permettra à nos jeunes scolarisés en collège et lycée majoritairement sur la commune de Bolène de disposer de véritables structures de loisirs, mais aussi, surtout, d'accompagnement à la citoyenneté, à la formation, à l'emploi en partenariat avec les associations et institutions telles que la CAF, la MSA, la Mission Locale Pôle Emploi, le CRETA, la MFR. Il est donc demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit des locaux de la ville de Bolène, tel que décrit en annexe, afin de donner un signe fort à notre jeunesse et permettre à la ville centre de retrouver la place qui doit être la sienne au sein des actions à mener en direction de la jeunesse sur ce territoire. Monsieur le Président.
Écoutez, moi je suis d'abord très heureux que la ville de Bolène reprenne sa place dans ce territoire au travers de ce réseau intercommunal pour la jeunesse et comme on n'a pas vocation à dépenser de l'argent inutilement, nous avons des locaux vides et donc nous les mettons à disposition pour créer ces deux accueils que vous avez pu voir à la fin de l'ancien Greta et puis l'ancien centre périscolaire, si je m'en mémoire est bonne, sur la Barcurie. Qui s'abstient ? Est-ce qu'il y a des questions ? Pardon. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Il s'agit des budgets. Nous attaquons le premier compte de gestion. Monsieur Perrin.
Alors, c'est la question donc, de 11 à 18, le compte de gestion 2021. Alors, si vous le permettez, considérant la répétitivité des comptes de gestion, je propose que le Conseil communautaire... Les questions numéro 11 à 18 de ceux qu'on propose d'un seul tenant. Donc les 8 comptes de gestion dressés par le comptable sont en tout point conformes aux comptes administratifs établis par la communauté de communes. Les excédents et déficits globaux de clôture sont rigoureusement identiques et se récapitulent comme suit. Alors pour le budget principal, un excédent donc, de 2 599 904,47 €. Concernant le budget du SPENC, un excédent de 9 448,34 €. Pour le budget annexe de la ZAC de Notre-Dame, déficit de 1 371 272,42 €. Pour le budget annexe Office de tourisme, un excédent donc, de 17 808,11 €. Pour le budget annexe de la zone de la croisière, donc, un déficit de 1 415 976,57 €. Concernant le budget annexe du pôle médical, un excédent donc, de 15 122,58 €. Le budget annexe de la ZAD Pan Europarc, un excédent de 868 179,89 €. Et concernant le budget annexe de la CAS, un déficit de 535 124,50 €. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les comptes de gestion dressés par le comptable de l'année 2021.
Très bien. Donc, compte de gestion sur le budget principal tel que déclaré par M. Perron, qui est certifié conforme par l'ordonnateur et qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 2, il s'agit du compte de gestion du budget annexe du service public de l'assainissement non collectif, qui est visé et certifié conforme par l'ordonnateur, qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Question numéro 13, il s'agit du budget annexe sur la zone d'activité Notre-Dame pour le compte de gestion 2021, qui est visé et certifié conforme par l'ordonnateur, qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part, qui s'abstient, qui est contre. Question numéro 14, il s'agit du budget annexe de l'Office de tourisme intercommunal pour le compte de gestion 2021, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part, qui s'abstient, qui est contre. Question numéro 15, il s'agit du budget annexe de la zone d'activité La Croisière, compte de gestion 2021, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier numéro 16, il s'agit du budget annexe du pôle médical, compte de gestion 2021,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier numéro 17, il s'agit du budget annexe zone d'activité Pan-Europarc, compte de gestion 2021, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Question numéro 18, il s'agit du budget annexe de la zone d'activité de la Clastre, compte de gestion 2021, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci d'avoir adopté à l'unanimité ces rapports numéro 11 à 18. Question numéro 19, vous le savez, en application de l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, dans les séances où le compte administratif du président est débattu, le Conseil communautaire doit élire un nouveau président. Aussi, il est proposé à l'Assemblée d'élire un président de séance pour les rapports 20 à 27. Et il est proposé M. Benoît Sanchez, premier vice-président. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Monsieur Sanchez, c'est à vous.
Merci, Président. Du coup, il vous a proposé donc de voter le rapport numéro 20, c'est sur le budget principal du compte administratif 2021. Donc, l'exercice 2021 de la communauté de communes est en clos. Pour un excédent global de clôture de 2 199 947 euros.
C'est Christian, le rapporteur.
Excusez-moi, du coup, M. Perrault. Je viens de voir que c'était vous. Moi,
c'est pas un problème.
Je fais partie.
C'est avec plaisir, M. Sanchez.
Non, mais je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que les finances...
Donc, concernant le compte administratif 2021 du budget principal, la première ébauche du compte administratif avait déjà été présentée dans le cadre du DOB. Vous trouverez donc ici les chiffres définitifs liés à l'activité 2021 de la CCDLP. Je vous rappelle que trois principaux éléments ont impacté la section de fonctionnement en 2021. Le premier... La continuité des mesures mises en place au regard de la crise sanitaire, dont les effets directs pèsent sur le budget de fonctionnement de la CCRLP, achat des masques, fonctionnement du centre de dépistage et de vaccination, achat de produits d'entretien et désinfection en quantité exceptionnelle et augmentation de la fréquence des prestations d'entretien dans les écoles pour un montant annuel d'environ 250 000 euros pour la seule année 2021. Également une aide aux entreprises via le fonds régional, mais également par la mise en place d'un fonds de soutien directement financé par la CCRLP et porté en partenariat avec l'initiative Seuil de Provence. Deuxièmement, la forte évolution du coût des traitements de déchets qui influe également fortement sur les dépenses de fonctionnement. En effet, la tendance à la hausse des prix de traitement des déchets, enfouissement ou incinération, ainsi que l'augmentation de la TGAP, ajoutée à la hausse du coût des carburants, entraîne une hausse de coût de collecte, tri, et traitement des déchets à l'échelle mondiale, et constitue pour notre communauté de communes une dépense supplémentaire plus de 350 000 euros sur la seule année 2021. Enfin, la prise en compte, la prise de la compétence mobilité par la CCRLP, dont les charges ont été transférées depuis le 1er juillet 2021, mais pour laquelle les attributions de compensation n'ont pas été encore déduites, double charge budgétaire pour la CCRLP, jusqu'à l'adoption du rapport de la CLET, qui s'élève à plus de 200 000 euros pour la période de juillet à décembre 2021. Pour autant, et malgré un contexte complexe, en termes de recettes en raison des modifications fiscales décidées par l'État, perte de 800 000 euros suite à la modification des bases locatives, la CCRLP a maintenu un niveau de recettes lui permettant de dégager un résultat de fonctionnement positif. La section de fonctionnement présente ainsi un résultat de 3 518 149,38 euros. Concernant les investissements portés sur le territoire en 2021, la communauté de communes a poursuivi sa politique pluriannuelle d'investissement et a porté plus de 9 millions d'euros de travaux sur nos communes. 2,6 millions d'euros investis dans le pôle de valorisation déchetterie, recyclerie et ressourcerie situé à Mondragon. 1,3 million d'euros reversés directement aux communes membres au titre des fonds de concours. Plus de 1,2 million d'euros pour poursuivre la rénovation et la sécurisation des écoles et des restaurants scolaires, 680 000 euros pour la protection des personnes et des biens dans le cadre de la compétence GEMAPI, plus de 630 000 euros investis dans la voirie communautaire, 1 330 000 engagés dans le cadre du développement économique avec notamment la construction de locaux commerciaux à la Motte, l'engagement de travaux de la maison du terroir et du bâtiment Aurillac à Bolène, les travaux en zone d'activité et aide à l'immobilier d'entreprise. 500 000 euros pour les bâtiments culturels de la chapelle de Saint-Cyprien à Mornas, 267 000 euros pour la construction d'une station phytosanitaire.